bonjour à tous. En déplacement dans un lycée technique à Saintes, en Charente-Maritime, en milieu de semaine, le président de la République a détaillé, vous le savez, les mesures devant transformer l'enseignement dans la filière professionnelle. Le chef de l'État a confirmé que les lycéens seront rémunérés en stage dès la prochaine rentrée scolaire de 50 à 100 euros la semaine. Emmanuel Macron a également annoncé que la carte des formations sera transformée d'ici à 2026. Les filières qui ne mènent pas vers l'emploi vont disparaître à terme pour favoriser l'orientation des élèves vers, je cite, les métiers en tension et les métiers de demain pour atteindre 100% d'insertion professionnelle. La réforme doit également s'attaquer au décrochage scolaire, aux relations école-entreprise, bref, un vaste chantier, mais la direction n'est pas forcément la bonne, selon Nicolas Brier, représentant SNETA Force Ouvrière au lycée Léonard de Vinci à Bressuire. Pour ce dernier, qui fut artisan chauffagiste avant d'embrasser la carrière d'enseignant, les deux véritables enjeux sont la mobilité et l'orientation, il répond à Fabien Gazot.
On devrait penser aux jeunes et remettre les jeunes au centre du débat. J'aurais préféré qu'ils nous parlent de mobilité des jeunes. Être capable d'aller trouver une entreprise dans nos localités, c'est compliqué. Donc déjà ça, la rémunération pour moi n'est pas le fond du problème. Les lycées professionnels ont d'autres problématiques d'importance. Des élèves décrocheurs en effet, ça nécessite aussi des éducateurs spécialisés, des AESH, ça nécessite des moyens. Alors juger aussi la réussite par l'insertion professionnelle, faut savoir qu'on a des profils qui arrivent dans nos lycées qui ont été mal orientés depuis le début et qui vont forcément changer de métier plus tard. Est-ce que c'est un critère qui juge vraiment de la pertinence du lycée professionnel? Je ne suis pas sûr non plus. Donc ça, c'est un critère qu'il va falloir faire très attention aussi. L'orientation, il en a été question. Je pense que c'est un des points, un des axes les plus importants qui devrait être dans cette réforme. Axer l'orientation des élèves et que ce soit des orientations choisies plutôt que des orientations subies.
Nicolas Brier voit ainsi d'un bon œil la découverte des métiers plus tôt, dès la cinquième, comme cela a été évoqué par le chef de l'État. Le syndicaliste regrette cependant une certaine méconnaissance du sujet. Emmanuel Macron et ses ministres parlant de stage alors qu'il s'agit de formation au milieu professionnel, insiste l'ancien artisan chauffagiste qui ne voit pas l'intérêt du bureau des entreprises censé améliorer la relation école-milieu professionnel. Quant à la rémunération, les chiffres avancés doivent être éclaircis. En tout cas, les enseignants ne pourront pas se contenter de simples primes.
La situation à Mayotte sera abordée lors du cercle de silence prévu ce samedi à Bressuire.
Mayotte est un département français faisant partie du même archipel que les Comores qui, elles, ne sont pas françaises. À Bressuire, les communautés mahoraises et comoriennes sont importantes et l'ARDIB, Association pour la reconnaissance et la défense des droits des immigrés en bocage, est amenée à accompagner les Comoriens dans leur démarche administrative. Et à écouter Gilles Maréchal, l'une des chevilles ouvrières de l'association, c'est loin d'être une formalité car il y a des spécificités qui ne sont pas transportables en métropole.
Les Comoriens obtiennent les titres de séjour à Mayotte et donc ces titres de séjour obtenus à Mayotte sont limités à l'île de Mayotte et donc ne donnent pas droit à séjourner sur le reste de la métropole. Et donc dans ce cas-là, il faut qu'ils demandent un visa pour pouvoir venir, par exemple, rejoindre leur famille ici à Bressuire. Et donc ça donne des situations très très difficiles parce que par exemple, il y a des familles qui sont complètement éclatées. Parfois les enfants peuvent être arrivés ici chez un oncle, une tante et que la maman par exemple est restée à Mayotte avec un titre de séjour à Mayotte mais ne peut pas rejoindre la métropole. Mais disons que la République française est à deux vitesses hein, puisque ils sont, si on peut dire, enfermés dans le département de Mayotte. Ils ne peuvent pas y sortir de façon réglementaire, quoi. Et donc ça a des conséquences très très fortes sur la vie de famille.
Et la pauvreté rajoute des difficultés à la cohabitation. Sur l'île de Mayotte, 80% de la population vit en effet sous ce seuil de pauvreté.
Il y a des tensions, effectivement, entre les Mahorais et les Comoriens, hein, qui sont nombreux dans l'île, d'ailleurs comme dans le bocage. Et les relations ne sont pas simples entre les deux groupes, on va dire. Mais il y a aussi des liens historiques très très forts. Et donc nous, on appuie. Par exemple, à Mayotte, on appuie les organisations, que ce soit la Ligue des droits de l'homme et d'autres, qui veulent faire valoir et faire respecter le droit des immigrés, des étrangers à Mayotte, y compris dans les démolitions qui sont en cours, qui sont, comment dire, inhumaines. On demande que le droit soit pleinement respecté aussi dans la métropole, hein, pour que les personnes puissent avoir le droit de circuler et de vivre en famille comme base des droits de l'homme, quoi, et des droits des enfants aussi.
L'ARDIB invite donc à participer au Cercle du Silence ce matin, de 10h30 à 11h30, place Notre-Dame à Bressuire. Un point sera fait donc sur la situation à Mayotte.
En Touarçais, les anciens combattants ferment leur section et s'offrent des plaques funéraires.
Avec 505 adhérents dans son répertoire, l'Union de Sévrienne des anciens combattants et des victimes de guerre enregistre plus de radiations que de nouvelles adhésions. C'est la marche de l'histoire. Les rangs s'éclaircissent à chaque 8 mai et les 19 mars, car il ne reste plus de survivants du 11 novembre. Concrètement, certaines sections communales comme celle de Brion, Saint-Cyr-la-Lande et Saint-Martin-de-Sanzé choisissent de se dissoudre faute de combattants. Mais alors, que faire de la trésorerie restante? Élément de réponse avec Jean Semion, secrétaire général départemental, au micro-colline de Dominique Hérault.
Chaque section a droit à un fonds de roulement. Le peu de trésorerie qu'il restera sera réparti sur des associations à but non lucratif et le président, avec l'accord des adhérents, a pris la décision d'organiser un dernier repas festif avec les adhérents et leurs épouses. D'autre part, l'association a acheté pour chaque adhérent une plaque mortuaire qui sera déposée sur la tombe ou l'urne funéraire lors de son décès.
Un achat de précaution en quelque sorte. Pour autant, ceux qui restent ont toujours des combats à poursuivre et des acquis à préserver. Jean Semion.
Ces droits sont inaliénables, mais malheureusement toujours menacés par certains parlementaires qui voudraient bien les voir supprimés. La première chose, la carte du combattant, qui permet d'avoir une retraite annuelle de quelque 700 euros. Autre avantage non négligeable, une demi-part supplémentaire pour le ménage de l'ancien combattant, demi-part transmissible à la veuve au décès de son époux. La lutte des anciens combattants consiste également à préserver le devoir de mémoire pour que personne n'oublie les 30 000 jeunes qui ont laissé leur vie sur les territoires algériens, en Tunisie et au Maroc.
Sans oublier la première et la seconde guerre mondiale. Pour entretenir le feu sacré, les anciens combattants ont vu arriver du 109 avec les militaires et soldats français qui ont participé à des missions sur les terrains d'opérations extérieures. Ils ont assis une douzaine dans les Deux-Sèvres pour assurer la relève. Reportage signé Dominique Hérault.
Les mordus de Terra Aventura profiteront peut-être de ce long week-end pour découvrir le nouveau parcours proposé du côté des tumulus de Bougon.
Il permet ainsi d'appréhender ce lieu chargé de connaissances culturelles et scientifiques. C'est Aurélie Jalounex, la conservatrice et directrice du musée, qui a conçu cette escapade ludique intitulée « Pas de Minus, c'est Tumulus ». Elle est au micro de D4B.
On vous emmène avec les Poys visiter le musée. En chaque énigme est donc la question que moi, le conservateur, j'aurais le petit élément scientifique sur lequel j'ai envie d'appuyer, que j'ai envie, les quelques éléments en fait qui me semblent importants que l'on retienne. Ça peut se faire en famille, entre amis, c'est encore plus rigolo et en fait de le partager. Et puis ensuite, avec tout le lien entre les terrains aventuriers sur les réseaux sociaux, de le partager au plus grand nombre et de montrer que au musée aussi on peut faire des choses fun et rigolotes.
Un parcours d'une heure et demie que 500 terrains aventuriers ont pu déjà découvrir samedi dernier. Cela se déroule donc au tumulus de Bougon.
L'actualité sportive du week-end, Patrice.
On parle football tout d'abord avec ce match de Niort à domicile face à Metz ce soir à 19h. Les Chamois qui n'ont quasiment plus aucun espoir de se maintenir en Ligue 2. Metz de son côté en revanche ambitionne de monter dans l'élite mais ne doit pas laisser échapper le moindre point. Hier après-midi, la conférence de presse d'avant-match, lors de cette conférence de presse d'avant-match, Bernard Simondi rondait un petit peu lorsque le manager général a été interrogé par un de nos confrères sur la jeunesse de certains joueurs dans l'effectif niortais. Écoutez sa réponse.
Pas beaucoup de vécu dans le monde professionnel. Certes, jeune joueur, on est jeune quand on a 17 ans, 18 ans, quand on a 19 ans, on a l'âge déjà un peu de jouer. Quand on a 20, 21 et 22, on joue au football et on joue en première division ou en deuxième division si on a l'espoir et le désir de faire une carrière. Quand on a cet âge-là, on est en âge de jouer, il faut arrêter avec le fait on est jeune ou pas jeune. C'est pas, attention, je vous réponds comme ça parce que on entend toujours la même chose, ils sont jeunes. Ils sont jeunes de quoi? Ils ont l'âge de jouer. Point barre. Point à la ligne. Ils sont là. S'ils ne sont pas conscients de cela, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont jouer au football. Moi, je vous le dis. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont jouer au football. Si à 22 ans, on pense encore qu'on est jeune et qu'on doit apprendre, certes, on a toujours des choses à améliorer. Mais déjà, on doit avoir certains acquis qui nous permettent d'évoluer à un certain niveau.
Bernard Simondi, manager général des Chamois Niortais. Des Niortais qui reçoit donc Metz ce soir au Salon des Gaillards à 19h. Match à suivre, bien entendu, en direct sur Colline. Les commentaires ce soir seront assurés par Vincent Nori et Anthony Gauvin. Et puis à propos des Chamois, j'en profite pour vous rappeler que le directeur général du club, Mickaël Hanouna, sera notre invité exceptionnel demain dans Sport Matin Dimanche à partir de 10h. Toujours en football, sur National 3, Nouvelle-Aquitaine, la réserve de Niort à domicile affrontera Anglet. En régional 1, Bressuire jouera à domicile. domicile face à Choré, un derby nord de Sévrier à suivre aussi Thouars face à Neuilly-Aubier, Partenay-Blenay recevra Rochefort, Niort-Saint-Léguer se déplace à Poitiers. Chez les féminines en Régional 1, match à domicile pour les Bressuraises face aux Paloises. En Régional 2, Saint-Sauveur s'en va jouer à Angoulême, Montcoutant à Beaumont, Échiré-Saint-Gelais reçoit Bressuire, Le Talus Chauvigny, Niort-Saint-Florent, Saint-Savin, Saint-Germain. Et puis cette info, football également. Pierre Naudet, jusque-là entraîneur de Notre-Dame-des-Champs, club de Régional 1 d'Angers cette saison, est sur le point de s'engager avec le Thouars Foot 79. En basket, en Betclic Elite, Cholet est vraiment dans une mauvaise spirale. Troisième défaite en effet en 6 jours pour CB, battu à Monaco dimanche, à Villeurbanne mercredi, à Fos-sur-Mer hier soir, sur le score de 81 à 78, sur le parquet de la Lanterne Rouge. Toujours en basket, en National 2 masculine, l'AS Niort s'en va jouer à Mont-de-Marsan en pré-nationale féminine. Bressuire jouera à domicile face au Stade Poitevin. Match sans réel enjeu pour les Bressuraises, déjà assurées de leur montée. Une montée acquise le week-end dernier. En handball, en LBE, devant 2000 spectateurs à la clameur de Niort, les Celloises ont réalisé un incroyable match hier soir. Match nul 25 partout face à l'Armada Nantaise au terme de la 22e journée de ce championnat, leur assurant ainsi le maintien la saison prochaine dans ce même championnat. Une très très belle soirée, notamment pour le coach sellois Thierry Vincent.
Oui, à tout point de vue. Résultat, ambiance, bon, c'était super. Depuis que je suis là, j'ai toujours eu cette sensation que le public était derrière nous. Et quand on lui écrit des scénarios comme ça, il est encore plus fort derrière. Et c'est un cercle vertueux qui nous permet de trouver de l'énergie et de faire ce qu'on a fait hier, qui est assez réel quand même.
Thierry Vincent, l'entraîneur des handballeuses celloises, qui hier soir ont donc de nouveau assuré leur maintien en LBE. Un entretien à retrouver plus en longueur demain dans Sport Matin Dimanche.
Les amateurs de sport de combat vont pouvoir aussi se faire plaisir ce samedi à Cerizay.
Le club local et la zone interdépartementale Poitou-Charentes organisent un open contact mélangeant diverses disciplines. Explication avec le président du club cerizéen, Max Goudfer.
Il va y avoir une quarantaine de combats qui vont opposer des gens qui viennent d'arts martiaux différents. Karaté, le Viet Vo Dao, Yosei Kanbudo, le Kung Fu, le Full Contact et le MMA. Donc tous ces gens-là vont se retrouver sur les tapis et vont s'affronter dans des règles spécifiques qui sont communes à toutes ces disciplines. Ça permet pour une fois de voir des gens qui viennent de divers horizons martiaux et sportifs et pugilistiques, et donc de les voir s'affronter en fait avec une réelle opposition de style de combat, puisque dans les salles d'entraînement ils s'entraînent chacun différemment à leurs arts martiaux. Ça vient au-delà du Poitou-Charentes, puisque on a des gens qui viennent de Bretagne, Pays de la Loire, il y en a qui viennent de Tours, de Bordeaux.
Un open contact à découvrir tout au long de ce samedi à la salle Léo Lagrange à Cerizay. Entrée gratuite jusqu'à ce soir 18h.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Avec des éclaircies ce matin.
Mais la couche nuageuse toujours susceptible de laisser échapper quelques gouttes essentiellement cet après-midi. Les températures sont en hausse aujourd'hui par rapport à hier, avec des maximales qui devraient se situer entre 22 et 24 degrés. Une dégradation nuageuse, pluvieuse et sans doute orageuse est à attendre pour la nuit prochaine, accompagnée d'un renforcement du vent qui pourrait atteindre 55 km par heure, essentiellement en nord de Sèvres. Demain, nous entamerons la journée sous les nuages et la pluie, et si une amélioration se dessinera dans l'après-midi. Les nuages pourront toujours nous apporter quelques gouttes. Les températures accuseront une légère baisse demain, avec des maximales un peu en dessous des 20 degrés. Retour d'un ciel plus clément lundi, mais sans évolution du mercure, puisque les températures devraient rester les mêmes que demain dimanche.
Voilà pour l'actu près de chez vous ce samedi matin. Merci Patrice. Retour, non pas lundi, mardi.
Mardi matin pour la prochaine édition de l'actu près de chez vous à 7h avec Fabien Gazot. Moi je vous retrouve ce soir à 19h, un peu avant 19h d'ailleurs, avec Vincent Nourri, Anthony Gauvin pour l'avant-match de la rencontre entre Niort et Metz, et puis également avec Jean Grolier demain matin pour son matin dimanche, et puis dimanche à 18h pour le sport dimanche dernier. Week-end chargé en fin de compte.
Bon week-end, bon courage, salut Patrice.
Salut.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.